Nous sommes toujours au salon maçonnique du livre à la Bellevilloise et nous sommes en face de Daniel Keller qui était, si je ne me trompe pas, grand maître du Grand Orient de France.
De 2013 à 2016, voilà. Et maintenant, je suis un frère parmi d'autres.
Un frère comme les autres. Pas tout à fait comme les autres, mais presque.
Allez. Ouais, voilà.
Alors, on avait quelques questions à propos de ce salon du livre. Est-ce que vous pensez que la franc-maçonnerie devrait encore plus communiquer qu'elle le fait aujourd'hui? Si oui, comment et sur quel type de sujet?
Je pense que la franc-maçonnerie, elle doit effectivement continuer de s'extérioriser et de ne jamais perdre de vue cet engagement. C'est tout le sens d'avoir organisé un salon du livre dans un lieu profane, comme la Bellevilloise. Et quand on voit la manière dont ce salon est fréquenté aujourd'hui, on peut dire que c'est un vrai succès, même si certains étaient dubitatifs à l'origine. Je le dis parce que j'ai été celui qui a milité le premier pour l'organisation d'un salon du livre dans un lieu ouvert à tous. Voilà. Et je pense qu'il faudra franchir une nouvelle étape à l'avenir, c'est-à-dire envisager un lieu encore plus central, encore plus grand, plus ouvert aux uns et aux autres. Mais je pense que cette démarche est la bonne.
Alors, si vous aviez un ou deux ouvrages à conseiller, un profane, hein, qui souhaiterait rentrer en maçonnerie et qui souhaiterait un peu lire quelques bouquins avant de se plonger directement dans l'arène.
Ma charité bien ordonnée commence par soi-même, donc je lui conseillerais l'ouvrage que Céline Brion-Porté et moi-même avons coécrit, l'Utopie maçonnique. Bon, mais ça, c'est un clin d'œil. Non, mais il y a plein d'ouvrages. Je pense que quand on entre en maçonnerie, il ne faut pas hésiter à aller regarder notamment les revues maçonniques. Alors là, j'étais devant Point de vue initiatique, qui est une magnifique revue de la Grande Loge de France. Ouais. La Villard de Honnecourt, qui est une magnifique revue de la Grande Loge nationale française. Bon, la chaîne d'Union ou Humanisme pour le Grand Orient. Je pense que ces revues, c'est la meilleure manière de se familiariser avec finalement les réflexions des francs-maçons. Il faut commencer par là. Et puis après, il y a différents ouvrages. Je pense que les Que sais-je sur les obédiences sont très bien faits, parce que c'est important de connaître l'histoire des obédiences qui ont structuré les loges. Et toute obédience mérite une attention particulière. Voilà. Et après, il y a des ouvrages effectivement sociologiques,
historiques,
philosophiques, maçonnologiques sur la maçonnerie. Et puis voilà. Dans un salon comme celui-là, on a l'occasion de se familiariser avec beaucoup de ces ouvrages. Là, Ludovic Marcos vient d'écrire, enfin c'est plus un livre de photos qu'un livre d'écriture, mais un très très beau livre sur les temples maçonniques. Il a photographié les temples maçonniques. L'iconographie est superbe. Je pense qu'on tombe amoureux de la maçonnerie quand on voit ces images. Je ne dis pas que ça suffit pour devenir franc-maçon. Mais en tout cas, c'est une magnifique introduction à notre histoire maçonnique.
Justement, vous dites que ça ne suffit pas pour devenir franc-maçon. Qu'est-ce qu'on trouve dans une loge maçonnique qu'on ne trouverait pas dans un livre sur la franc-maçonnerie?
On y trouve d'abord la rencontre avec d'autres frères et d'autres sœurs. Le Grand Orient de France est devenu une obédience dans laquelle des loges initient des femmes, de plus en plus de la moitié d'entre elles aujourd'hui. Donc c'est un lieu de rencontre au sens noble du mot, de partage. Ça, je crois que c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, je crois que ce qui fait l'ADN des francs-maçons, c'est que ce sont des hommes et des femmes très engagés dans la vie de la cité. Donc quand on demande à un franc-maçon ce qu'il est, quand on commence un peu à gratter sous le vernis maçonnique, on s'aperçoit que la plupart sont engagés, que ce soit dans des associations citoyennes, en faveur de la lutte en direction des personnes handicapées. Évidemment, la laïcité est un sujet de prédilection pour les francs-maçons, parce que c'est un engagement citoyen. Mais on pourrait multiplier les exemples. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le mouvement associatif, eh bien, pour beaucoup, c'est un mouvement où il y a des francs-maçons. Et je crois que ça, c'est aussi un virus qui se propage très vite quand on est un franc-maçon.
Alors, on parle souvent, en ce moment, et depuis quelque temps, de romans initiatiques. Qu'est-ce que c'est qu'un roman initiatique? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que le mot initiatique dans roman initiatique ou film initiatique, est-ce que ça a le même sens que l'initiation qu'on vient chercher dans une loge maçonnique?
Mais le roman initiatique a ceci de commun avec la démarche initiatique, c'est que c'est le sens d'un engagement, d'un cheminement sans fin. Voilà. Donc, si on lit Les Chevaliers de la Table Ronde, on est dans une démarche initiatique. La franc-maçonnerie, évidemment, est une illustration magnifique de cet engagement-là. Mais je crois que, voilà, s'initier, c'est accepter de faire un cheminement dans lequel c'est le chemin compte plus que le but que l'on va atteindre.
Merci Daniel Keller.
Je vous en prie.
Une dernière question quand même. Vous avez été 3 ans grand maître du Grand Orient de France. Qu'est-ce qu'on retire comme expérience personnelle de 3 ans de grande maîtrise?
C'est une merveilleuse expérience au service des autres. Et il faut toujours cherché à être vrai avec toutes celles et tous ceux vers lesquels on va pour essayer de répondre à leurs questions et de les soutenir dans leur vie de maçon, dans leur engagement maçonnique. Et c'est une expérience indélébile. Voilà.
Je vous remercie.
Merci.